Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Aujourd'hui, nous allons aborder la 9e chambre, le pardon des fautes, des erreurs et des manquements du conjoint ou de la conjointe. Le pardon des fautes, des erreurs, des manquements, voire des péchés du partenaire. On va aborder cela ce matin. Est-ce qu'il faut tout pardonner? Est-ce qu'on peut tout pardonner? Est-ce qu'il existe des actes intolérables, des choses qu'on a faites qui sont intolérables? Est-ce qu'on peut se séparer? Parce que ça vient de là. Le refus du pardon entraîne forcément le divorce. Est-ce qu'on peut divorcer? Est-ce qu'on peut se séparer? À quelles conditions c'est possible? Donc nous allons aborder cela de manière attentive et on va s'appuyer énormément sur la parole de Dieu. Alors, il faut savoir que une faute, c'est un manquement à une règle morale, à une norme, ou un acte ou une omission, quelque chose qu'on devait faire qu'on n'a pas fait. Donc c'est un manquement à une règle morale, à une norme, c'est un acte ou une omission consistant un manquement à une obligation quelconque. C'est quoi pour être plus pratique? On parlera de faute lorsque votre femme, puisqu'on traite de quelqu'un au foyer, n'a pas fait ce que vous vouliez qu'elle fasse. Ou bien le mari n'a pas fait ce que vous voulez qu'il fasse pour vous. Le mari est en congé, la femme est à la maison. Il dit, chérie, il faut me dresser le lit aujourd'hui. Va repasser mes habits. On peut repasser les habits de sa femme. Lave mes dessous qui sont sales. On peut laver les dessous de sa femme. Ce n'est pas la sorcellerie. Si quelqu'un le pense, c'est que c'est lui-même qui est sorcier. Je voudrais que... Il y a ça. Parce que toujours, c'est des hommes qui donnent des autres à leurs femmes. Moi, je vais renverser un tout petit peu ça aussi. La femme peut demander à son mari de faire ci ou ça pour elle. Si le mari ne le fait pas ou ne l'a pas fait, il est en faute. Ça, c'est un manquement. C'est une omission. Simplement cela. Est-ce que ça justifie, par exemple, qu'on se sépare ou qu'on ne puisse plus jamais se parler? Je vais développer quelque chose qui est important ici, c'est que le pardon est quelque chose qu'on doit accorder. Le pardon est une valeur spirituelle. On verra si on peut tout pardonner ou si on, et à quelles conditions est-ce qu'on doit pardonner. Vous savez, je parle de faute parce que en tant qu'humains, nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes sujets à la faiblesse de la chair et on est capable de commettre des grossièretés. Il n'y a pas une seule personne qui peut taper sa porte pour dire « Moi, je suis innocent, je suis propre, je ne vais jamais manquer quelque respect à ma femme ou à mon mari. » Je ne vais jamais, jamais l'injurier. Je ne vais jamais avoir une attitude désobligeante. Donc, sachez que nous sommes tous sujets au péché. Et je le ramène dans le domaine du couple, de manière plus précise, pour ne pas que ce soit un sujet, je le pardonne de manière vague. Ça veut dire que je peux manquer mes obligations à l'égard de ma femme. Ou que ma femme peut manquer ses obligations à mon égard. Pourquoi? Mais parce que la Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, j'accorde mon pardon parce que tous les hommes, y compris les femmes, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. J'accorde le pardon parce que le Seigneur l'a dit lui-même. La chair, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Et tant que nous sommes dans la chair, nous pouvons commettre des fautes, des erreurs, des péchés graves. On peut tomber dans cela, même si on ne doit pas le faire. C'est pourquoi on doit accorder le pardon. On doit aussi comprendre que le pardon est nécessaire parce que la Bible déclare dans Romains chapitre 3, le verset 10, qu'il n'y a pas un seul juste sur la terre. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Donc si moi j'étais offensé par ma femme ou par mon mari, je dois être conscient que moi-même qui a été offensé, je ne suis pas juste. Et je ne suis pas mieux qu'elle, ou je ne suis pas mieux que lui. Parce que justement, moi aussi, je peux faire les mêmes choses. Il faut savoir en réalité que dans le couple, ce qui fait que le lien conjugal est possible, malgré les années et les confrontations, c'est la grâce de Dieu. Si la grâce de Dieu se retire de quelqu'un, cette personne est capable de pire des choses. Est-ce qu'on est d'accord avec moi ce matin? Si la grâce de Dieu se retire d'un mari parce qu'il est intransigeant, ce mari intransigeant qui est vraiment carré, demain sera surpris de faire des choses incroyables. Ne pensons pas que ceux qui pêchent sont des gens qui sont plus mauvais que nous. Pas du tout. Bien sûr, on peut soi-même provoquer les situations, on peut provoquer les erreurs, on peut provoquer les fautes, on peut provoquer l'infidélité, on peut provoquer l'adultère, on peut provoquer les mensonges, on peut provoquer les tromperies. Soi-même, on peut les provoquer. Mais je suis en train de dire que ce n'est pas parce que le frère ou la sœur l'a fait, le marié l'a fait ou la mariée l'a fait, qu'il est forcément mauvais, qu'elle est forcément mauvaise. Regardez ce qui s'est passé avec Jésus et ses disciples, notamment Pierre. Jésus dit à Pierre, Simon, il n'a pas dit Pierre, il a dit Simon. Il est retombé sur son nom, parce que Simon, Pierre c'est le sens spirituel. Et Simon, c'est l'aspect naturel, un peu comme Abraham et Abraham, ou Jacob et Israël. Il a dit Simon, il s'adresse à l'homme charnel. Il dit, Satan vous a réclamé pour vous passer au crime comme un froment. Non, nous, on ne connaît pas le froment ici. On connaît le mil ou bien le maïs. On pile et puis on fait bac avec ça. On dit, Satan t'a réclamé pour te passer au crime, pour te piler comme le foutu, ou comme on pile du igname, ou comme on pile par exemple du maïs. Mais j'ai prié pour toi. Ouais, un peu le même Pierre, pour montrer que nous sommes sujets au péché. Pierre était sérieux. Et la prière du Seigneur l'a gardé du pire. Mais quand les serviteurs du roi ou des juifs, les pharisiens sont arrivés pour arrêter le Seigneur, Pierre a essayé de le défendre. Mais c'était Pierre Lachet qui agissait. C'est vrai ou c'est faux? C'est Pierre Charnel qui agissait. C'était le Simon qui agissait là. Le Charnel qui agissait. Il a coupé l'oreille de Marcus. Le Seigneur a remis l'oreille à la place. L'homme Charnel, Pierre, a toujours suivi le Seigneur parce qu'il a dit de plaisir, je vais te suivre. Il a suivi de loin. Mais quand il est arrivé dans la cour où le Seigneur a été jugé, on voit Pierre qui était incapable d'affirmer qu'il était serviteur de Dieu, qu'il connaissait le Seigneur, qu'il était son disciple, et mieux qu'il était le porte-parole. Il était le porte-parole, le leader. Il a dit, celui-là, j'ai entendu dire qu'il était de Galilée. Moi-même, là, c'est la première fois que je le vois. Parce qu'il a fait dans cette ville-là, il a créé une confiance totale. Et c'est moi-même, quand vous regardez, moi, je suis un péché. Moi, je suis quelqu'un qui a fait la pêche. Est-ce qu'on peut être ensemble? La femme dit non, on ne peut pas être ensemble. Je jure. Pierre a nié le Seigneur. Ouais, l'aspect Simon, Charnel, a fait qu'il a commis quelque chose de grave. Je pense même que, on parle souvent de Judas, mais si on veut voir le péché de Simon et de Judas, en termes d'impact, il est quasiment la même chose. Un a renié et a juré qu'il ne le connaissait pas. L'autre, Judas, c'était un homme qui aime les ken. Judas. Il aime le business. Lui, c'est un chercheur d'argent. Tu donnes son argent, lui, il te vend son ami. C'est comme ça. Il a fait tranquillement. Il a fait, puis bon, il dit non, ça, c'est une affaire de 36 ans. Moi, je dois acheter un portable de Nekri, Nokia, ML650. Donc, si on me donne les 30 pièces, je fais mon affaire. Non, ouais. Mais si moi, je dis qu'on n'est pas le passé, vous ne trouvez pas Mathieu Bourrin et que je jure, c'est la même chose. Comme s'il avait vendu. Moi, franchement, si c'est le cas, je vous mets au même niveau. Mais c'est Pierre, la chair qui agit. Donc voilà comment il est possible. Quand la grâce de Dieu ne se manifeste pas tout à fait, qu'on veut s'agir par la chair, si on veut être rigoureux envers les autres, envers sa femme ou son mari, il n'est pas impossible que soi-même on commette des fautes pires, plus graves que ce qu'elle aurait fait. C'est pourquoi aussi, il faut pardonner. Est-ce qu'on peut dire amen avec moi? Bien sûr, on abordera les actes qu'on peut difficilement laisser tomber. On verra ça tout à l'heure. Mais il est important de comprendre que c'est quelque chose qui à une dimension spirituelle. On pardonne parce que Dieu même pardonne aussi. Vous voyez que le pardon atteste que nous avons dans notre vie la grâce. Le pardon atteste la grâce de Dieu. Le pardon atteste la grâce de Dieu. Quand vous pardonnez à votre mari, c'est mensonge. C'est une mission qui n'en finit jamais. À votre femme, sa bouche qui parle, elle parle. Vous montrez par là que vous avez une dimension de grâce supérieure à elle. Vous montrez que vous avez plus de grâce, c'est ce que je vais dire. Parce que vous voyez, à celui qui aura beaucoup reçu, il lui sera beaucoup demandé. S'il se trouve qu'au niveau spirituel, vous la femme, vous êtes supérieure à votre mari, ça veut dire que vous avez reçu plus de grâce que lui. Et donc, si vous avez plus de grâce que votre mari, il vous sera beaucoup demandé au niveau spirituel, donc en thème d'acte spirituel et de pardon. Est-ce que ce que je dis est clair? Donc, quand on est un peu plus élevé que l'autre, ce qui nous est demandé est encore plus important, puisque on a reçu plus de grâce et on doit être prêt à beaucoup donner et à beaucoup offrir. Mais le pardon est également accordé à notre mari ou à notre femme. Atteste aussi la patience. Romains chapitre 3, verset 25. Romains 3, verset 5 le dit. Quand on pardonne à quelqu'un, à son mari, pour ses erreurs graves, ou à sa femme, pour ses erreurs graves, on montre par là qu'on fait preuve de patience. Je pardonne parce que j'espère que demain il va changer, ou demain elle va changer. Donc je fais preuve de patience. Romains chapitre 3, verset 25. On peut lire ça ensemble. Romains 3, 25. C'est lui que Dieu a destiné comme un moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi et par son sang, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impuni le péché auparavant. Ils ne sont pas des justices, mais qui n'ont pas de patience. Au temps de sa patience, verset 26. Il a montré sa justice et au temps de sa patience, il a voulu montrer sa justice dans le temps présent de manière à être reconnu juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Il faut dire amen avec moi. Donc, pardonner à quelqu'un, c'est faire preuve de patience. De la même manière, Dieu manifeste sa patience à notre égard. De la même manière, quand on pardonne à sa femme pour ses erreurs, nous montrons à son égard de la patience. Mais c'est aussi faire preuve de bonté. Quand je pardonne, je fais preuve de bonté. Psaume 51, quand David a péché, il dit, oh Dieu, tes bontés. Ouais, David a commencé à crier au Seigneur pour demander ses bontés. Psaume 51. Je lis le verset exact même, le signifie. Le verset exact, c'est le Psaume 51, verset 3. Et c'est la Bible qui le demande. Et qui le dit aussi, qui l'exige, je dirais même. Je parle des choses graves que votre mari vous a faites. Des choses graves que votre femme vous a faites. Ouais, là. Et quand vous pardonnez, vous montrez la bonté des yeux dans votre cœur. Pardonner également nous amène à attester de la fidélité des dieux. Jean 1, verset 1, verset 7 à 9. 1 Jean chapitre 1, verset 1 à 7. Non. 1 Jean chapitre 1, verset 7 à 9. Oui, ça y est. Il dit car Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Et nous purifier de toute iniquité. Quand je pardonne, je fais preuve d'une certaine fidélité. Je manifeste par là la fidélité de Dieu. Parce que comment savoir que Dieu est fidèle? C'est quand nous péchons et qu'il nous pardonne. C'est cela. C'est par là que je reconnais que Dieu est fidèle. C'est aussi par là que je reconnais que Dieu est bon. C'est par là que je reconnais que Dieu est patient. C'est par là que je reconnais que Dieu est il est amour. Puisque j'étais offensé et que j'ai pardonné. Donc, le pardon dans le foyer, entre l'homme et la femme, est important. Mais bien sûr, combien de fois faut-il pardonner? Le Seigneur, une fois, a été saisi par Pierre. Je pense que je trouve dans Matthieu, chapitre 19, je crois. Hein? Non, chapitre 18, verset 21 à 22. Combien de fois faut-il pardonner? Et puis, il était le grand leader qui aimait beaucoup parler. Le Seigneur, il faut pardonner combien de fois? 7 fois, ce sont 17. Ça fait combien? 539, c'est ça non? 400 combien? Non. 7 fois 7, ça ne peut pas faire 90. Il y a toujours 9 à la fin. Combien? Ça passe 549. Combien? Non, calculez. Non, 7 fois 7, ça fait 49. Il y a 9 ici. Je mets au-dessus de 4. Fois 7, ça fait 49. Plus, ça fait 539. Oui. Voilà, c'est très rapide dans ma tête. C'est 539. 7 fois 7, 49. 9 ici. On met 4 là. 7 fois 7, 49. Plus 1, 3 plus 49. Ça fait 53. C'est ça, non? Alors, ça fait 439, calcul mental. 539, calcul mental. Donc, il faut pardonner 539 fois. Combien de fois? C'est par jour. Bon, on fait calcul simple. Il y a combien d'heures dans une journée? 24. Bon, maintenant, 24 multiplié par 60. Ça, c'est les minutes. Ça fait combien? Calcul mental. 6 fois 4, ça fait 24. Ça fait combien? Donc, 1440 minutes. Bon, alors, 1440 divisé par 2, ça fait combien? Ça fait à peu près 700 et quelques. Voilà. Donc, le Seigneur dit de pardonner 539 fois. Ça veut dire que si ton mari t'offense à chaque 2 minutes, il faut lui pardonner. Ça veut dire que vous ne dormez même pas. Pendant 24 heures, vous ne dormez pas du tout. Parce qu'on suppose que 24 heures, il y a moins 8 heures de sommeil, à peu près. C'est ça, non? Et il y a 8 heures au boulot. On n'est pas ensemble. Il reste combien? Il reste 8 heures. Mais là, 8 fois 60. Donc, on a dit que pour que vous péchiez 4539 fois par jour, c'est quasiment impossible. Ça veut dire, en clair, il faut pardonner à tout moment. Mais ce n'est pas facile avec nos femmes et nos maris. Mais c'est dit que le pardon doit être accordé à chaque fois que quelqu'un te le sollicite. Et puis, comme on traite la question du pardon dans le foyer, comment tu es et puis quelqu'un va t'offenser 539 fois par jour? Comment tu t'arranges? Parce que pour que ça va te faire, il y a des gens qui ont des sentiments à fleur de peau. Pourquoi tu veux comme ça? Tu es en train de m'insulter ou quoi? Ouais, ces personnes-là, est-ce que... Mon ami, comment on peut faire? Ça veut dire que tout ce que tu fais est considéré chez lui ou chez elle comme étant une offense. Quand tu bats un peu, je suis fatigué. Il y a un village comme ça. On a bien, tu t'étires comme au village là. Tes grands-pères au village, ils sont là-bas, ils sont en train de... Mais vous voyez qu'on ne peut pas, ça ne peut pas marcher. C'est pourquoi celui qui se sent offensé a des efforts à faire à son niveau. Le Seigneur dit qu'il faut pardonner 539 fois par jour. Alors, pourquoi on t'offense 539, pourquoi ta femme ou ton mari t'offense 539 fois par jour? C'est qu'à la base, quand même, tu dois être un peu difficile à vivre. Oh, il y a des hommes qui sont difficiles à vivre. Il y a des femmes qui sont difficiles à vivre. Surtout les dames. Ne cherchez pas à tout interpréter. C'est parce que monsieur n'a pas fait le bisou sur la joue gauche et l'a fait sur le front. Habituellement, c'est sur la joue gauche. Pourquoi c'est sur la joue front? Robert, il faut venir aujourd'hui, il faut t'asseoir devant moi. Habituellement, tu me fais bisous sur la joue gauche. Pourquoi c'est sur le front aujourd'hui? Explique-moi. Il dit, il a innové. Oui, il a innové. Enfin, je riens un tout petit peu pour dire que des fois, on se fâche pour des petits riens. Sachez une chose, ce sont les petits riens qui détruisent le foyer. Regardez une chose. Psychologiquement, l'homme et la femme sont différents. L'homme s'attache à ce qui est macro, ce qui est gros, macro, ce qui est gros, général. Les femmes s'attachent à ce qui est micro. Non, les micros, petite taille, les petits modèles, machin, la chaussure mal placée. Bon, elle va regarder les tailles. Les pouces, les cheveux, le parfum n'est pas bien mis. Bon, ça, c'est le rôle des femmes. Mais vous voyez qu'il faut qu'il y ait une conciliation entre les détails et puis ce qui est gros. Donc, finalement, comme psychologiquement, on est différent. Par exemple, les femmes ont des grosses oreilles, l'homme a des gros yeux. Il est important de savoir que quand tu dis quelque chose à une femme, elle a compris. L'homme, tu peux dire quelque chose. Donc, vous voyez, les hommes font beaucoup de promesses. Mais ils oublient facilement. Quand une promesse est faite à une femme, les femmes sont très intelligentes, elles gardent ça quelque part dans un cerveau de sa tête. Elle va te rappeler ça. En 1975, ça c'est les parents qui sont, là c'est les grands-parents maintenant, mercredi, à 8h25. Tu ne m'as pas dit ça? Mais ça fait 75, ça fait combien d'années? Et te rappelle ça. Pour l'instant, ça ne vous dit rien. Parce que 75, ça paraît lointain. Je vous fais la promesse. Dans 20 ans, vous aurez quel âge? Quel est votre âge? Donc, quand vous avez dit à votre mari, en 2009, on dit, en 2009, attends, nous sommes en 2040. Vous voyez, non? Attends, on est en 2040. Donc, quand tu as dit en 2009, en 2009, au campus. Parce que Gadi Abraham, tu le connais? Oui, quand il prêche, il y avait sujet sur lui. Le jour où on est parti, après le culte là, tu as promis que tu allais m'acheter des gains. Tu as oublié ça. Toi toujours, Robert, tu oublies tes promesses. La chaussure, la dernière fois, tu as oublié d'acheter. Tiens, dans ta tête, et puis tu oublies toujours tes promesses. Vous voyez, elle va chercher à savoir si tu n'as pas une liaison d'infidélité quelque part. Vous voyez, les femmes, non? Parce que les mémoires ne sont pas les mêmes. Il faut comprendre que psychologiquement, nous sommes différents des femmes. Les hommes, ils regardent gros, ils regardent, ça ne fait rien. Donc, en l'homme, il y a beaucoup de négligence. On passe sur les choses. Et donc, pour qu'on puisse se comprendre et se pardonner, c'est aussi bien de se connaître psychologiquement, afin de ne pas prendre les problèmes pour des grandes montagnes. Alors, pour être assez pratique, on va aborder des sujets qui sont un peu plus pratiques, un peu plus concrets. Est-ce qu'on peut tout pardonner? Oui. Mais à quelles conditions faut-il pardonner? Est-ce qu'il existe des actes difficilement pardonnables? Moi, j'ai dit oui. J'ai d'abord abordé ces actes qui sont difficilement pardonnables ou tolérables avant d'aborder le dernier aspect qui est les conditions pour que on se pardonne dans le foyer. Je crois que quand un problème survient entre la femme, surtout pour certains types d'actes, hein, je ne dis pas quand vous chauffez un peu la voix, vous êtes un peu en petit conflit, tout ça. Bon, c'est des choses qu'on pardonne. On n'a pas acheté à manger pour toi, c'est pas grave. Bon, ça on laisse tomber. Bon, le monsieur est chaud la nuit, la femme est fatiguée, il faut laisser tomber ça. Tu ne vas pas quand même garder greffe. Il y en a qui gardent ça en greffe, il t'attend au tournant. Pour venir demander encore une audience, elle va te dire non. L'autre jour, tu as oublié ce que tu as fait. Je pense que ces petites choses-là, ça peut se régler facilement. Les problèmes d'intimité sexuelle, les petites paroles, machin, tout ça. Mais il arrive des actes qui, pour moi, passent difficilement et qu'on ne devrait pas régler à deux. On doit pouvoir faire intervenir une troisième personne, voire une quatrième personne. Parce que si on veut les régler à deux, sans l'intervention d'une quatrième personne, une troisième personne, ça peut finir par nous détruire. Je vais les citer quelques actes. D'abord, commencer par la violence. Un mari qui, de temps en temps, est en colère, il passe des fessées et des claquettes. La botte prend son bras, la tord. Et elle peut mentir de temps en temps que c'est quand pendant la douche qu'il a glissé et que son poignet s'est cassé. Fait, en temps, elle porte une grosse patte. Ça, c'est un mensonge scientifique. Oui, c'est un peu scientifique parce qu'elle veut couvrir un peu son mari. Maintenant, il faut tolérer ça une fois ou deux fois, mais pas trois fois. Pas trois fois. Mais raconter une histoire. Elle a assis dans une église en Côte d'Ivoire, ici à Abidjan. Charismatique, évangélique, parlant en langue. Une église comme ça. C'était un pasteur, pas un pasteur, mais quelqu'un qui était bien avancé. Il a frappé sa femme, bon, et puis la femme portait les machins. On demande à sa femme, qu'est-ce qu'il y a? Non, dans la douche, quand je partais, bon, j'ai glissé, et puis je suis tombé, c'est pourquoi. Bon, mon bras s'est déplacé. Bon, moi, je peux comprendre ce genre de petits mensonges parce que, bon, ça dépend des valeurs. Ça, c'est pas mauvais. C'est peut-être pour couvrir un peu la famille. Mais le monsieur insistait. Et puis un jour, il dit au pasteur, tout ce que je te dis là, tu étais fou, hein. Le monsieur là, il me frappe. Il dit quoi? Il dit, il me frappe. On a mis sous discipline. Donc, vous voyez que dans le pardon des actes, au niveau de la violence, il faut savoir le degré de violence. Si ça dépasse un certain niveau, il ne faut plus chercher à couvrir ton mari. Bon, si tu fais parler avec ta femme, elle t'a gratté, là. Bon, si tu dis, ma femme m'a boxé, m'a gratté, ça passe mal. Tu peux dire, non, c'est mon enfant. Quand j'arrivais, il a ouvert la porte. Et puis la porte m'a frappé. Dans cette position, ça ne fait rien. C'est mieux, c'est un petit paladrap. Bon, est-ce que c'est un mensonge, c'est un bon mensonge, c'est un faux mensonge? Moi, c'est un mensonge qu'on peut penser qu'il est un peu sanctifié. Ça peut couvrir le foyer. Mais pas trois fois comme ça. Il y a des petits trucs comme ça qu'on essaie de cacher. Parce que, bon, on ne veut pas exposer son mari. Surtout, ce n'est pas sa femme. Vous voyez, parce que bon, Je pense que c'est pourquoi c'est une vérité qu'il faut savoir dire avec sagesse. Je réponds à une question. Si on poursuit quelqu'un qu'on veut tuer, qui part dans le quartier, et on le poursuit, tout ça, il rentre chez moi, en automatique, on me demande, est-ce qu'il est rentré chez moi? Je dirais non. Je vais mentir pour ça. Je dis non, je n'ai pas rentré chez moi. Je préfère mentir en parenthèse pour sauver une vie humaine que de vouloir dire la vérité pour qu'on tue quelqu'un alors que je sais qu'ils vont le tuer. Je dirais non, je ne l'ai pas vu. Ça, ce n'est pas un péché. David l'a fait. Ça, ce n'est pas un péché en ce sens-là. Parce que là, on compare deux valeurs. On fait la comparaison de deux valeurs. Quelle est la valeur qui est la plus importante? Est-ce que c'est le mensonge ou bien c'est le fait de vivre quelqu'un qu'on va tuer? Qu'est-ce qui est le plus important entre les deux? C'est quoi? C'est la vie. Donc la vie sera sauvegardée. Je préfère dire je ne l'ai pas vu, je ne le connais pas. Maintenant, la situation est un peu différente. Mais c'est à vous d'apprécier. Votre mari vous a fait quelque chose, ce n'est pas intéressant. Votre bras est cassé, c'est bon. Vous savez qu'il joue un rôle important, que si jamais le patron apprend ça, on lui crée des problèmes dans son travail. Par exemple, ça peut arriver, ici c'est peut-être pas très développé, mais elle peut développer, on ne pardonne pas ça. Hein. Elle peut développer, on ne pardonne pas ça. Si jamais vous avez un problème, elle peut développer, si vous allez là-bas, que ce soit en France ou au Canada, les femmes ont toujours raison. Elle appelle la police. Quand la police vient, la première chose, on demande, monsieur, tes bagages, prends, il sort. Mais ils ne réfléchissent même pas. Et si jamais la femme l'a dit, il va porter la main d'un homme mort. Il y a des gens qui sont devenus fous. Quand il m'appelle un clochard au Canada, à Montréal, un avocat, il est devenu clochard. Sa femme l'a mis dehors. Complètement même. L'a mis dehors. Il dit, toi, tu sors de la maison. Tu insistes, tu appelles la police. La police m'a manqué de respect. Il m'a giflé. Il m'a menacé les enfants. Ça, c'est un fou furieux. La police, elle sait qu'elle arrive. Elle dit, monsieur, et puis entends, elle met tes bagages dehors. Monsieur, tes bagages. Tu les prends, on te fout dehors. On te dit, jamais ne mets pieds ici. On te le dit. Si tu mets pieds encore, tu aggraves quoi? Tu aggraves la faute. Alors, si vous êtes un peu développé, ici en Afrique, il n'y a pas de problème. Parce que si tu frappes ta femme et que tu vas chez le policier pour dire, j'ai frappé ma femme, il dit, moi-même, hier, j'ai frappé la mienne. Donc, tu vas te plaindre pour quoi? Policier, il dit, mon mari m'a frappé. Il dit, hein, ton mari a frappé. Moi-même, la boba, là, je la fesse. Quand elle fait ce connu, tu frappes sa bouche. Il faut quitter ici. Ne pratique pas. En Afrique, ça ne passe pas du tout. Enfin, je dis, c'est chose qui passe facilement. D'un peu développé, ça ne passe pas. Alors, si un cas arrive, vous êtes de la foi, votre mari a été un peu violent, machin. Vous savez que si vous le dénoncez, il est foutu. Mais il est vraiment foutu. On peut le foutre en prison. Sa carrière est brisée. Qu'est-ce que vous allez faire? Il y a une comparaison entre la vie de votre mari, son travail, sa profession, et le fait qu'il t'ait frappé. Tu as dit quoi à l'église? Tu as dit quoi? Parce que le voisin peut entendre, parce que même les voisins peuvent dénoncer là-bas. Ils peuvent développer, les voisins sont les policiers. Il dit, police 170, il y a un monsieur qui est en train de frapper sa femme. Mais maintenant, si tu sais que la voisine a appelé, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand la femme, tu dis non, police, on tente de jouer aux amoureux. Il ne m'a jamais frappé. Ouais, il t'a frappé vraiment. Mais tu sais que si tu dis la vérité comme ça, c'est foutu pour lui. Ouais, que donc, il faut toujours comparer. C'est pourquoi dans les relations de l'homme et la femme, il faut toujours comparer les valeurs. Quelle est la valeur qui est la plus importante? Ça, c'est par rapport à un acte violent, mais pas trop violent, tolérable. Par contre, si ça dépasse un certain niveau, manifestement, la femme devient violente. Les femmes sont violentes aussi, ce n'est pas toujours les hommes. Elles n'ont pas été portées, mais les femmes portent toujours les mains aux gens. Toujours les mains aux gens. Je pense que pour ce genre d'acte, c'est vrai qu'il faut pardonner, mais il ne faut pas que ça reste entre vous deux. Ce serait une erreur de vouloir régler ça à deux. Il faut en parler à une autorité. Si vous appartenez à la même église, même si elle est diaconesse, prophétesse, pas par le pasteur. Je dis ma femme, devant les gens, elle me frappe. Et des fois, j'aime la beauté. Mais à cause de Dieu, laisse tomber. Il faut le dire ça. Je pense que c'est bien ce genre de cas-là. Où visiblement, ça se répète. Je pense qu'il faut en parler. C'était même biblique. Si quelqu'un a péché, qu'il appelle un frère. C'est ce qui dit la parole de Dieu. Qu'il appelle un frère. Et même qu'on passe devant les anciens. Et même devant l'église. Donc vous voyez, par rapport à la nature de l'acte, si vous sentez que le foyer devient impossible à cause de la violence qui se manifeste, il ne faut pas se taire. Dis non, il ne faut pas donner, je laisse tomber. Un pasteur a raconté une histoire vraie. Enfin, une histoire, j'espère qu'elle est vraie. C'était un mariage que j'entendais ça. Le monsieur était violent. Et chaque fois, il disait à sa femme, un jour, je vais te tuer. Avec l'enfant de Jésus. Je vais te tuer. Il semble que la femme en parlait, en a parlé à son pasteur. Son pasteur a dit, non, il faut prier pour lui, il faut laisser tomber tout ça. Et puis un jour, effectivement, le monsieur a tué sa femme. Je pense que le pasteur n'a pas été sage. Je crois qu'il y a des cas de faute ou d'actes. Là, on tombe dans les cas d'actes qui sont difficilement tolérables. J'espère que vous me suivez très bien. Il y a des cas de violence qui sont difficilement tolérables. Quelqu'un te dit qu'il va te tuer si tu n'arrêtes pas de commencer comme ça. Surtout s'il est co-habillé. Surtout s'il est nerveux. S'il est costaud. Ou s'il est petit, mais très nerveux. Ils sont petits, mais ils sont très nerveux. Ils sont très teigneux. Tu sens que le monsieur, effectivement, est capable de faire ça. Je crois qu'il ne faut pas jouer à la spirituelle, à vouloir dire non, ça ne fait rien. Dieu va toucher son cœur. Dieu va toucher son cœur. Mais il faut toucher le cœur d'une autre personne aussi. Il faut en parler à un pasteur ou à une autorité. Il faut que ce genre de violence répétée, mais qui visiblement peut se transformer en autre chose, il faut que ce soit porté à la connaissance en dehors de vous, de dire à quelqu'un d'autre pour dire, voilà, il faut me le convoquer. Si vous appartenez à la même église, bon, si vous êtes des églises différentes, il faut voir son pasteur, si c'est un prêtre, il faut le voir. Voir quelqu'un pour qui il a du respect. Et si possible, faites venir membre de la famille pour dire, voilà ce que Robert, Dagobert, il n'y a pas Dagobert ici. Voici ce que Dagobert me dit. Ou bien Rigobert. Rigobert, chaque fois quand on parle, il me menace de mort. Moi, franchement, je ne peux pas accepter ça. Demandez-lui ce qu'il a. Parce que si vous ne le dites pas, on ne sait jamais. Donc, il faut que la personne elle-même soit mise devant les faits accomplis pour le pousser à changer son comportement. C'est pourquoi je dis les actes difficilement tolérables. Par exemple, un cas de violence, cette fois-ci, sexuelle. Monsieur, il viole sa femme constamment. Elle est fatiguée, s'en fout. Elle est malade, ce n'est pas son problème. La maladie, il est dedans. Il a dit, non, Dieu dit, il faut... Est-ce que vous acceptez ça? Non. Moi, je veux être un pasteur équilibré. Je veux être équilibré. Je veux être quelqu'un de très équilibré, qui voit les choses de manière tout à fait pratique. Je peux dire à une femme de rester avec un homme comme ça. Tu es malade, il va avec toi. Et puis après, il dort bien. Et puis demain matin encore. Ça, c'est malade. Est-ce que c'est normal même? Il est normal comme ça. Vous n'avez pas dit non, c'est mon barrio. Il faut en parler. Si tu n'en parles pas, c'est que toi-même, tu aimes ça. Ah, non, il faut en parler. Il faut voir un pasteur, quelqu'un qui dit, ah, mon mari, ce qu'il me fait, ce n'est pas bon. Mon mari, j'ai connu une histoire encore plus grave, pas aussi grave que celle-là. Là, je m'excuse pour le non-mari, mais je veux le dire parce que on ne sait pas ce qui se passe dans les cœurs. Et puis comme ça passe sur Internet, forcément, ça va être écouté partout, un peu partout. Une histoire vraie qu'on raconte. Un homme va avec sa femme et il faut qu'il fasse 6 coups, comme on dit, 6 fois. Ah, déjà une fois même, 2 fois, c'est trop compliqué. Jusqu'à 6. Tant qu'il n'a pas été 6, il n'est pas satisfait. Première fois, il faut tolérer. Tu tolères. Deuxième fois, il faut dire ça là. Il faut pas tolérer ça là. C'est pourquoi je pense qu'il y a des actes, il y a des fautes qui ne sont pas tolérées facilement comme ça, quoi. Sinon, il faut que j'en parle. Il faut en parler à quelqu'un. Des sûr, on dit, mon mari me fait vivre des sévices sexuels incroyables. Et vraiment, dites-lui ce qu'il a, je ne peux pas accepter ça. Il faut en parler. Pas dire, oui, c'est mon mari. Dieu dit, il faut pardonner. Alors, je pardonne pour moi. Si tu pardonnes, c'est que toi, tu aimes. Donc, dans ce cas, il n'y a pas de problème. Mais si tu sens qu'il y a un problème et que tu sens que ta vie, ta santé est en danger, il faut en parler. Et pas seulement entre toi et le pasteur ou bien quelqu'un qui t'a confiance. Mais il faut en parler au point qu'on puisse avoir une rencontre à trois. Et quand tu es parti, il est présent. Le pasteur s'est dit, mon mari, Sidibé, est-ce que tu ne me fais pas ça? Bon, ça, voilà. Il dit, bon, le pasteur va te dire que tu fais ça, mon frère. Est-ce que c'est spirituel ou bien c'est comme ça naturel? C'est rien qui prend les médicaments. Donc, j'ai dit, madame, fouille ces médicaments, il faut les jeter à la poubelle. Contrôle sa nourriture. Et là, au moins, ça vous couvre. Parce que si vous dites non, on dit de pardonner, je pardonne ça, vous allez vous exposer à la mort. C'est pourquoi je pense que dans ces genre de cas-là, il ne faut pas laisser passer ce genre de choses en vous laissant vous deux régler ça. Il y a des cas de masochisme ou même de vampirisme dans les relations d'homme-la-femme au niveau de l'intimité. Des cas qu'on m'a raconté. Un homme
qu'elle n'a pas mordu sa femme jusqu'à ce qu'elle ait du sang, il ne juge pas. Ça, c'est un sorcier. Mais c'est vrai, mais qui boit le sang? C'est pas la sorcellerie et les mystiques qui boivent du sang. Il dit, non, c'est mon mari, laisse tomber, c'est que tu aimes ça aussi. Ça, il ne faut pas laisser tomber ça. Il ne faut pas laisser tomber ça. Il faut vraiment en parler. Parce que si quelqu'un doit te mordre avant que je m'excuse, avant qu'il ne juive, ce gars-là, il est possédé. Il n'y a rien à faire. Ou bien il a été influencé par les films porno où on boit les gens, on attache avec des chaînes bizarres, tout ça, on te frappe. On te frappe. Bon, lui, il a vu ça. Il a vu ça et il veut te faire ça. Il dit, moi, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ça, là, ça ne touche pas mon corps. Ton histoire de qu'on peut fouiller, qu'on frappe, elle est contente, là. C'est les films qu'on a pris dans les trucs bizarres. Et je vais répondre à une question. Ce n'est pas un rapport direct avec le sujet, mais ça me vient à l'esprit parce que peut-être qu'on la pose. Est-ce qu'un chrétien coupe mal pour regarder un film pornographique? Moi, ma réponse est claire, c'est non. Je suis très ferme sur ça. Je dis non, pourquoi? Je donne ma réponse. Je dis, on ne peut pas, on ne doit pas se rendre présent à regarder un film pornographique. On peut essayer de justifier les choses. Je vais expliquer pourquoi est-ce que je suis contre ça. C'est pas, ça ne rentre pas dans le cadre du sujet, mais je vais développer cela. Vous savez, ce sont avant tout, on a fait avant tout à des acteurs du cinéma. À des acteurs, avec leur travail, leur boulot. Ils apprennent ça, ils font ça. C'est leur métier. Un peu comme tu vas à l'école, à l'ordinateur, tu tapes, lui, il est un acteur du sexe. Est-ce qu'on se comprend ce qu'on dit? Donc, il ne peut pas faire le sexe, faire pratiquer la sexualité comme toi, qui est normal. Puisque lui, il a fait un boulot. C'est comme on demande à moi de courir 100 mètres avec le jeune Jamaïcain Usain Bolt. Est-ce que c'est possible? Tu ne peux pas. Avant que tu fasses 10 mètres, lui, il est arrivé. C'est une profession. Donc, on ne peut pas demander de regarder les films pornographiques faits par des professionnels. Parce que quand tu regardes les films professionnels, tu fais à des professionnels. Tout ce qui se fait, c'est mimé. Et puis, un acte au cinéma, on le reprend plusieurs fois. Vous le savez, la même scène, on la reprend plusieurs fois. Et on prend la meilleure scène possible. Donc, quand vous les voyez comme ça, ils ont dit ça plusieurs fois. Peut-être depuis deux jours, entre les personnes. Ils font. Donc, quand toi, tu vas regarder ça, qu'est-ce que tu vas vouloir faire avec ta femme? Tu vas vouloir faire quoi? Répondez-moi les maris, tu vas vouloir faire quoi? Tu vas essayer. Quand tu ne vas pas y parvenir, tu vas dire ta femme est comment? Elle vaut rien, elle est moche. Psychologiquement, tu auras tendance à essayer. Je pense que on peut vraiment avoir une bonne vie sexuelle tranquille. Maintenant, si c'est difficile de déclencher un plaisir chez toi, bon, on peut prier pour dire Seigneur, libère mes sentiments parce que Dieu a créé le corps. Les sentiments. C'est pourquoi je ne suis pas très favorable à cela. Parce que derrière, avant tout aussi, derrière également, l'idée c'est de dévaloriser le sexe, de le galvauder, de le banaliser complètement. Or, j'ai dit ici que le sexe est un organe qui est différent des autres organes. C'est le seul organe qui procure un plaisir spécial, mais exceptionnel, et qui donne en même temps la vie. On ne peut pas l'utiliser comme on utilise sa langue, on utilise sa bouche. En tout cas, ça, c'est mon commentaire à moi. C'est pourquoi je ne suis pas favorable vraiment. Bon, ceux qui sont habitués à cela, il faut vraiment arriver à vous délivrer. Et puis, sachez une chose, on peut avoir une vie sexuelle avec sa femme tranquillement, sans faire d'acrobatie. Parce qu'il faut, moi, je sais pas, on fait de l'acrobatie, bon, mais on prend ces positions incroyables. Mais ce sont des acteurs. C'est un acteur. T'as dit à ma femme, on va essayer ça. Oh, on va essayer, ça ne marche pas. Toi-même, tu vois rien. Le gars, il a essayé de faire ça. Toi-même, tu peux pas faire ça. Donc, vous avez créé des problèmes, mon frère. Parce que, il pense que la vie est simple. Hein. Mon frère, tu fais ta chose tranquillement. Tu dors. Voilà. Et puis, tu es satisfait. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Ça, c'est ma position, ça. C'était une parenthèse. Mais c'est ma position. Je pense qu'on peut en discuter. Mais je pense que c'est pas encouragé. Il y a aussi des actes difficilement tolérables lorsqu'il a tromperie à la base. Cette fois-ci, ce n'est plus de la violence physique ou sexuelle exercée sur l'autre partenaire, mais à la base, c'est la tromperie. En droit, on parlerait d'erreur sur l'objet. On parlerait de dol. Il y a eu un genre de mise en scène. Tu crois avoir marié Sidibert, mais en réalité, tu as marié... Maïki, Dagobert. Surtout par rapport à sa nature. On m'a raconté une histoire il n'y a pas longtemps. Et il semble que ça arrive de temps en temps dans les églises. C'est une soeur qui était fidèle, comme dans notre vie si pleine. Fidèle, qui aime le Seigneur, zélée dans la foi. Et puis un monsieur bienvenu. Vous voyez, toujours, on regarde toujours les gens qui sont bien. Je vais demander aux soeurs, parce que c'est surtout aux soeurs que ça arrive. Ne demandez pas d'abord à regarder la voiture de la personne. Ce n'est pas ça qui va vous frapper. Cette soeur s'est laissée frapper par ses yeux. Par ses yeux. Un bel homme bien, mature, nu, représentant. Le monsieur dit que. Et puis il trouve la soeur qui est la plus fidèle dans l'église. On m'a raconté ça dans ce mois d'avril. Là. Il est passé dans un mariage quelque part. Comme elle a raconté ça. Ça m'a choqué d'entendre ça. Et bon, il a remarqué, il a observé. Il a vu qu'à l'église, il y a une soeur qui prophétisait, qui était chaude. Et puis elle était belle aussi. Il s'est approché, il a commencé, bon, tout ça. À l'église, il fait semblant, comme c'est pas la langue. Ça veut dire qu'on peut imiter tout. Puis après, il a dit à soeur, oui, bon, il veut rester ici, vraiment, mais qu'il l'aime, il n'est pas marié, et tout ça. La soeur est tombée dans le panneau, elle n'a pas discerné, elle a accepté. Elle va voir le pasteur. Le pasteur dit, vraiment, monsieur vient d'arriver il n'y a pas longtemps, on ne le connaît pas bien, est-ce que tu peux passer à tes... Non, pasteur, c'est bon, moi-même, je l'aime, et puis je brûle tout cela. Moi, si tu brûles, il faut calmer le feu. Il dit, non. Il faut que. Ah, bon, quand la fille veut se marier, tu vas faire quoi? Parce que si tu refuses, elle va penser que tu es contre elle. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas accepter. Le monsieur a accepté. Enfin, le pasteur a accepté. Et puis dans le mariage, je m'excuse, il se rend compte que le gars, c'est à 4h du matin, il est en train de faire des prières bizarres. Et le monsieur lui dit, mais en tout cas, je voulais te montrer qu'on est capable de prendre les femmes même dans l'église évangélique. J'ai jamais été avec vous. Tu as fait quoi? Alors, si on me pose une question, est-ce que dans ces cas, on peut se séparer? Moi, j'ai dit oui. Il y a erreur sur la personne. C'est pourquoi, vous voyez, dans les questions de pardonner, oui. Mais il y a des actes qui sont intolérables. Quand il y a une tromperie à la base, je pense qu'il faut se sauver un instant. Si quelqu'un te bat et te frappe, te menace de mort dans ton foyer, va rester avec lui. Mais un jour, il va te tuer. Quitte la maison. Moi, c'est ma position. Et ce que je dis, ça va passer sur les antennes africaines, ça va passer partout. Donc, s'il me trompe, je me trompe. Et moi, mon ministère. Je pense qu'il ne faut pas être carré. On est des hommes, on doit être très lucides. Rien te menace des morts. Ou tu es en train d'aller sur comme ça, dans tes bagages, prends du recul. Et puis prie. Je n'ai pas d'aller divorcer d'abord. Prends d'abord du recul. Prie le Seigneur et attends. Parce que quand tu es dans la maison, tu ne peux pas avoir la lucidité pour réfléchir, savoir ce que Dieu veut te dire. Et de loin, tu peux envisager ce que Dieu peut faire. Dieu peut te dire, je veux le sauver, je veux le délivrer. Ok. Mais être dedans avec ça comme ça, moi je dis non. Il y a d'autres cas aussi comme à raconter, dont je parle maintenant. Un homme s'est marié. On m'a raconté ça la dernière fois quand je prêchais. On fait le mariage à l'église, tout ça, ça s'est bien passé. La réception s'est bien passée. On va au lieu des noces. Monsieur dit qu'il est fatigué. On attend le lendemain. Bon, pas de problème. Une semaine passe, il est toujours fatigué. Et moi, passe, il est fatigué. La femme dit, on est mariés. Bon, on ne comprend pas quoi. Tu es toujours fatigué, qu'est-ce qu'il y a? Quand c'est comme ça, les femmes sont toujours très demanderesses. Ouais, quand c'est comme ça, elles sont toujours en train de demander. Le monsieur, il est fatigué. Il faut laisser dire. 6 mois après, des mois plus tard, la femme se rend compte que le monsieur, il est impuissant. Il n'y a même pas qu'il ne bat même pas, mais là-bas, ça marche, ça ne fonctionne même pas. Il n'y a même pas un démarreur. Le démarreur est mort. Moi, on me souvient comme pasteur. Qu'est-ce que moi, je lui dis? Je dis, si elle veut, elle peut pardonner, mais elle peut prendre du recul. Parce que Dieu est capable de le guérir, c'est vrai. Mais il faut se demander, pourquoi est-ce qu'il t'a fait ça? Donc, c'est pourquoi quand il n'y a pas de faute, je vois tous les aspects. Hein. Ce n'est pas seulement les mensonges, ou si tu fais quelqu'un, c'est ce genre de choses-là. Sur des choses qui sont concrètes. Est-ce que je peux dire à la fille de quelqu'un, de rester avec un monsieur qui ne demande même pas, et puis ils vont se regarder toute la vie? Si c'est arrivé dans le mariage, ok. Mais si à la base il a menti, moi je comprendrais que la fille veut se retirer. Je la comprendrais parfaitement. Je ne la condamnerai pas. Donc, c'est vrai qu'il faut pardonner. Mais il y a des actes pour lesquels on aura du mal à pardonner si la personne elle-même ne se répand pas totalement. Il y a des cas encore d'inceste ou des cas d'humiliation où un homme va avec une copine dans la chambre conjugale. C'est vrai qu'il faut pardonner. Mais il faut que le monsieur fasse acte de repentance. Tu n'as pas dit, oui, bon, ça ne fait rien, je lui pardonne. Non. Parce que, regardez, il peut penser que toi-même, tu es d'accord. non seulement ça, il faut pouvoir en parler à quelqu'un d'autre. Mais je crois que le monsieur ou la femme, parce qu'il s'appelle avec une femme, fasse ça aussi. Il faut qu'absolument, elle fasse preuve d'une repentance sincère et réelle. Et ce n'est pas tout. Parce que même quand ce genre de choses arrivent, parce que même le viol, c'est déjà un crime, en droit ivoirien, le sexe, c'est quelque chose de très, très grave. C'est là qui est intolérable. Par exemple, quand monsieur sort avec votre fille aînée, si par exemple vous avez eu un enfant auparavant, et puis vous mariez avec quelqu'un, et puis le monsieur sort avec votre enfant, votre propre fille, et pas mal, elle tombe enceinte. L'enfant, en même temps, ton petit-fils, il est. Enfin, je ne comprends pas quoi. Et c'est que là, ça arrive constamment. Un foyer de ce genre devient difficilement à vivre. Une femme qui voit une scène pareille ne doit pas se taire. Elle doit parler. Et je pense même que ce serait bien qu'elle prenne un petit recul par rapport au monsieur. Je ne parle pas de rupture totale, je ne parle pas de divorce. Parce que je crois au fond de mon cœur qu'il n'y a pas un seul homme sur la terre qui n'est pas capable de se repentir. Il y a des gens qui peuvent se repentir. L'apôtre Paul a participé au mode de Étienne, mais il s'est repenti. Il a changé de vie. Donc, il est toujours possible qu'un grand sorcier, un féticheur, un mystique change. Mais je pense que quand la personne menace de mort ou à ces gens d'actes, du tout normal de prendre du recul et puis de prier. Donc il y a d'autres cas qui peuvent aussi revenir, comme l'autre cas aussi que j'ai en esprit, qui considère comme aussi un acte difficilement tolérable. C'est le cas où c'est une tromperie, mais notre petit de tromperie, il se marie avec vous, tout est parfait. 15 ans après, tu découvres que le monsieur n'a jamais renoncé, il a toujours entretenu une copine dehors. C'est que ouvert de quoi. Et après 15 ans, tu te rends compte que le monsieur, il a une maîtresse avec qui il a un enfant qui a le même âge que votre mariage. Si cette soeur, parce que trompée en elle-même, parce qu'ayant vu le lien de confiance être brisé, veut se retirer, moi je la comprendrai parfaitement. Et pour qu'on répète, il se retire un instant, quitter la maison, je crois. Là, c'est bon. En parler à quelques personnes. Et s'il se trouve que le monsieur. Je lui dis, ne veux même pas regretter. Qu'est-ce que vous pouvez faire ensemble? Oui, je suis en train de traiter le cas de la séparation possible. Le divorce, en principe, est interdit. La parole de Dieu, c'est le principe. Mais pour moi, il y a des cas où le lien conjugal peut devenir impossible. Et qu'il serait mieux de prendre un recul d'abord. Je ne peux pas te divorcer, de prendre d'abord un recul. Quitter la maison. Voir si le monsieur ou la dame est capable de se repentir. Le cas qui devient mystique, africain mystique, c'est, qui a trompé du soeur à l'église avec la mariée et tout ça. Ou le cas de quelqu'un qui a fait l'inceste ou qui commet des violences, qui va 6 fois avec sa femme dans la même journée, qui la traumatise complètement, qui la mord jusqu'au sang. Je pense que c'est déjà les cas qui, au niveau humain, sont difficiles à accepter. Je peux comprendre que la femme ou le monsieur prennent du recul dans un premier temps. Voir de loin comment les choses se passent. S'il se trouve que le monsieur après revient se repentir, la femme, pas que les hommes aussi se repentent, demander pardon à Dieu et qu'il veut revenir au Seigneur, oui, on peut repartir ensemble. Mais s'il persiste dans sa voie, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez que je ne donne pas une réponse tranchée, mais je dis que dans le couple, bon, bien sûr, ce que je donne comme cas sont les cas un peu extrêmes, mais il n'est pas impossible que ça arrive. Il y a des cas de ce genre qui arrivent, et je pense que ça serait avoir une fausse attitude que de se morfondre et puis d'être là quand même, accepter que le pire se produise. Non, je pense que pour moi, il faut absolument dénoncer, il faut absolument en parler. Et surtout, quand on se retire, c'est pour que, non seulement on réfléchisse un peu mieux, mais c'est surtout créer des conditions pour que la confiance renaisse. Surtout si la personne qui est fautive veut se repentir et se répand, quel que soit ce qu'elle a commis, il faudra lui pardonner. Je n'ai pas entendu amen. Je sais que c'est choquant. Si on vous tourne dans votre lit, c'est choquant. Mais si la personne se répand sincèrement, il faut faire comme Dieu. Il faut lui pardonner. Mais il faut prendre une garantie. Des garanties, des garde-fous, des mesures de sécurité, de sécurité pour être sûr que certaines choses ne vont pas se répéter. Donc en clair, le pardon doit être accordé parce que le pardon est conforme au plan de Dieu. Mais les actes qui sont difficilement tolérables, qu'on ne doit pas chercher à arranger entre l'homme et la femme, pour lesquels on a besoin absolument d'associer des amis et des connaissances. Maintenant, dans quel cas est-ce que il n'est pas possible que le lien conjugal se reconstitue. C'est dans le cas des divorces que j'ai donné tout à l'heure. La Bible en parle dans Matthieu. La question qu'elle avait été posée, c'était même pas le divorce dont il s'agit, c'était plutôt la répudiation. Parce qu'il y a une différence entre la répudiation et le divorce. N'est-ce pas, vous savez qu'il y a une différence entre les deux, hein? La répudiation est différente du divorce. C'est pas la même chose. La répudiation à l'époque, c'est l'homme qui marie, et c'est l'homme qui prend la décision de manière unilatérale de dire aujourd'hui, je ne veux pas de toi, tu prends tes bagages, tu t'en vas. Et le Seigneur a dit que ça avait été fait à l'époque par Moïse à cause de l'incrédulité du cœur. Donc c'était à l'époque pour des raisons liées à l'incrédulité et pour des raisons de cohésion sociale. Mais je ne parle plus de répudiation, on parle de divorce. Quand vous êtes marié légalement, il n'y a pas de répudiation en tant que tel. Il faut un consentement. Mais encore, tu vois, il y a quatre causes de divorce. Il y a ce qu'on appelle un juge grave, il y a le cas d'adultère, il y a etc., etc. Et puis maintenant, ils ont adopté l'idée de divorce par consentement. Ça, on appelle ça chez les Européens. On peut divorcer quand les deux sont d'accord. Mais je ne parle pas de ce genre de divorce pour dire oui, aujourd'hui, tu ne m'as pas salué, on va divorcer demain. Non, je ne parle pas de ça. Je pense que pour qu'on arrive au divorce dans le foyer chrétien, il faut vraiment que toutes les voies aient été épuisées. Mais ce n'est pas tout. Je ne peux accepter cela que dans les cas rares que j'ai eu à citer. C'est-à-dire des cas de personnes qui visiblement étaient mythiques, qui sucent ton sang. Tant qu'elle n'a pas bu son sang, ici, il ne juge pas, ce homme-là, si tu veux te le quitter, il faut le quitter. Il n'y a rien à faire. Parce que là, il est carrément autre chose. Bon, il y a des cas de personnes qui, évidemment, en esprit, sont complètement, je vais dire, c'est le même cas de personnes qui boivent le sang ou qui t'a trompé sur sa nature et tu te découvres après qu'il n'a jamais été dans la foi, complètement dans la foi, tu te fais avoir. Je pense que là, pour moi, c'est des cas de séparation qu'on peut comprendre. Bien sûr aussi, dans les autres cas, c'est des cas qu'on peut régler si évidemment la personne qui est fautive fait acte de repentance. Et puis je pense aussi que si une personne menace une femme de la tuer, je pense que si elle veut le quitter, si une fois elle a déjà essayé, elle a tiré sur toi une fois, elle a tiré sur ta jambe, je pense qu'il ne faut pas attendre deux fois, hein. Il faut le divorcer. Hein. Elle a essayé de tuer une fois avec, puis t'as frappé ta jambe. Moi, dans mon cas, là, une femme vient me voir et dit, ma soeur, il faut le quitter. Non, un homme comme ça, il va te tuer un jour, tu peux le quitter. Donc je pense que ces cas de séparation peuvent être des cas. Donc il y a des cas très rares, mais les autres cas d'infidélité, d'adultère, il a été un peu méchant, il m'a giflé un peu, puis ça me fait mal, et puis je l'aime plus, son parfum devient un parfum bizarre, ça sent pas bon, et puis bon, moi-même, il a grossi, de façon, voit, a grossi, je l'aime plus trop, mais ma femme elle a un peu vieilli, elle a eu quelques rides, alors que tu as fait 10 gosses, c'est normal qu'elle ait des rides, non? Ouais, moi j'aime un fille fraîche, non? Ces genre de questions là, je pense que on doit être honnête, on peut pas se séparer pour ça, mais pour les cas rares que je vais citer, je pense que si on doit arriver à la séparation parce que justement aucune possibilité n'est donnée de la repentance, je peux comprendre ça parfaitement. Voilà un tout petit peu ce que je voudrais vraiment dire. Alors que Dieu vous bénisse vraiment, qui vous êtes et que sa grâce soit sur vos vies. Amen. Gloire à Dieu. Donc je voulais être expressément très pratique. Je ne voulais pas être trop spirituel. Je voulais être très pratique. C'est pourquoi j'ai pris des cas concrets, des cas que les gens vivent, que peuvent vivre. Et pour lequel il faut apporter une réponse tout à fait claire.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.